RLP.
C'est Maurice Meslier dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Alors, si vous avez ouvert vos volets, c'est pas peine de vous mettre à la fenêtre. Vous allez voir le soleil qui vient sur votre table, ou je sais pas, ou sur votre livre, si vous lisez. Surtout pas sur la télé, parce que vous allez rien voir sinon. Hein. Mais il fait beau. Bah dis donc, il fallait bien depuis le temps. Hein. Vous avez vu les rincés qu'on a vus? Oh, incroyable! Bon, il faut bien de l'eau. Hein. Alors, mais, de l'eau, mais il faut aussi du pastis. Hein. Faut pas que de l'eau. Hein. Bon. Alors, on va commencer par un grand monsieur. Il s'appelle Victor, de son prénom, et Hugo, de son nom. Et il a écrit un poème qui est superbe, qui s'appelle en plus « Liberté ». Vous vous rendez compte? C'est incroyable. De quel droit mettez-vous des oiseaux dans les cages? De quel droit ôtez-vous ces chanteurs au bocage, aux sources, à l'aurore, à la nuée, au vent? De quel droit volez-vous la vie à ces vivants? Homme, crois-tu que Dieu, ce Père, fasse naître l'aile pour l'accrocher au clou de ta fenêtre? Alors, une petite aparté, à la campagne, il y a très longtemps, on tuait des corbeaux et on les clouait sur la porte. Et c'était pour enlever les malheurs, soi-disant. C'était, oh, c'est les vieilles traditions paysannes. Hein. Quand je suis venu à la campagne en 77, en pleine campagne, j'ai pas vu ça. Bon, c'était déjà, je pense que les gens ne le faisaient plus déjà. Hein. Alors, au clou de ta fenêtre. Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela? Mais qu'est-ce qu'ils ont donc fait tous ces innocents-là pour être au bagne avec leur nid et leurs femelles? Qui sait comment leur sort à notre sort se mêle? Qui sait si le verdier qu'on dérobe aux rameaux? Qui sait si le malheur qu'on fait aux animaux et si la servitude utile des bêtes ne se révolte pas en Néron sur nos têtes? Qui sait si le carcan ne sort pas des licousses? Oh, de nos actions, qui sait les contre-coups et quel noir croisement ont au fond du mystère tant de choses qu'on fait en riant sur la terre? Quand vous cadenassez sous un réseau de fer tous ces buveurs d'azur faits pour s'enivrer d'air, tous ces nageurs charmants de la lumière bleue, chardonneraient, pinçons, moineaux blancs, hoche-queue, croyez-moi que le bec sanglant des passereaux ne touche pas à l'homme en heurtant les barreaux. Prenez garde à la sombre équité, prenez garde, partout où pleure et crie un captif, Dieu regarde. Ne comprenez-vous pas que vous êtes méchants? À vous, ces enfermés, donnez la clé des champs. Au chant les rossignols, au chant les hirondelles, les âmes expireront tout ce qu'on fait aux ailes. La balance invisible a deux plateaux obscurs. Prenez garde aux cachots dont vous ornez vos murs. Du treillage au fil d'or naissent des noires grilles. La volière sinistre est mère des Bastilles. Respect aux doux passants des airs, des prés, des eaux. Toute la liberté qu'on prend à ces oiseaux, le destin juste et dur le reprend à des hommes. Nous avons des tyrans, parce que nous en sommes. Je veux être libre, homme. Et de quel droit, ayant chez toi le détenu, le témoin effrayant? Ce qu'on croit sans défense est défendu par l'ombre. Toute l'immensité sur ce pauvre oiseau sombre, se penche et se dévoue à l'expiation. Je t'admire, oppresseur, criant à l'oppression. Le sort te tient pendant que ta démence brave, ce forçat qui sur toi jette son ombre d'esclave, et là, la cage qui pend au seuil de ta maison, vit, chante et fait sortir de terre la prison. Le 12 mai 1856. Alors, je ne savais pas que le 12 mai, on tuait les oiseaux, moi, le 12 mai 56. 1856. Je pensais que c'était plutôt maintenant avec nos chasseurs, nos pesticides, hein, nos engrais chimiques, tous ces trucs-là qui tuaient les oiseaux. Mais déjà à l'époque, vous voyez, ils tuaient déjà les oiseaux. Bon. Alors c'était pour les manger, c'était quoi? Alors il y en a, c'était naturellement pour des espèces de croyances. La preuve, vous voyez, c'est ce qu'il dit au début de son poème. Hein. Voilà. Alors, dans le coup, on va demander à Barbara qui va nous dire quand est-ce que tu rentreras. Dis.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Ah, Barbara, c'était quelqu'un, ça. Elle était un peu bizarre, parce qu'on ne lui connaît pas de mari, d'amant, d'enfant. Je ne sais pas, pourquoi, d'ailleurs, c'est bizarre. Bon. Mais après tout, ça n'empêchait pas que c'était une très bonne chanteuse, une très bonne comédienne aussi. Hein. Alors, je sors mon livre unique, mon deuxième tome de balades poétiques au travers d'un prévert. Je fais imprimer un seul exemplaire, pour moi. Mais je vais quand même vous lire les poèmes qui sont dedans. Et si un jour vous me dites, j'aimerais bien l'acheter, ça... alors là vous appelez tout de suite, vous téléphonez tout de suite à RLP, et de façon à ce que je le sache, et quand il y aura une vingtaine d'auditeurs ou d'auditrices qui voudront mon livre, je les ferai imprimer pour vous. Voilà. Alors là, alors, c'est bizarre parce que ce poème, je l'ai écrit un mardi 28 février 2020. Il était 3h47 du matin, mais bien avant le confinement. Mais j'ai revisité pratiquement 3-4 mois après, à 18h17, et là, en plein déconfinement. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça se ressent dans ce poème. Hein, peut-être que vous pourrez me le dire. Hein, Jaco, si tu m'écoutes ce coup-ci, là, hein, tu pourrais me dire si on comprend pourquoi j'ai fait avant le confinement et après le déconfinement ce poème. Hein. Ça s'appelle le raconteur éclectique. Il racontait que son Son compteur usait trop d'excentricité à tout le monde autour de lui, ce qui provoqua un volte-face parmi les biphasés et les poireaux bio. En fait, le raconteur ne racontait rien qui puisse faire augmenter les watts et les cotons-tiges, sauf en cas de sourde oreille à ses comptes à rebours. Car un raconteur, madame, reste avant tout un rat, qui a un profond dégoût des frites belges à cause des radis et des radicelles trop faisandés. Notre narrateur, ou notre rat-nateur, aimait lire des histoires de ragondins en aimant se percher sur des rondins au bord de la rivière avec un gourdin pour attraper des coups de soleil. Figurez-vous. Mais, comme le conteur avait un doute sur le débit de son compteur excentrique, il n'osait plus allumer les bougies de son congélateur et celles de sa télé. Il faut dire que c'était l'hiver et qu'il faisait plus que froid dans son trou à rats. Pourquoi avoir de l'excentricité quand il fait moins quelques degrés au-dessous de zéro, zéro masqué bien sûr, hein, mais enfin déconfiné. Ouais. C'est à ce moment crucial, qu'intervient l'Inky. Vous savez, le compteur couleur sauvage qui envahissait chaque foyer sous prétexte de faire le bien avec du bien plus mal. Le raconteur ne s'en fit pas compter grâce à la chef de M. Sanguin qui passait par là pour y paître dans ce prévoyant juste à côté de son trou à rat. Elle dit au rat de ne pas compter sur elle car elle n'était pas abonnée au même hébergeur d'excentricité que lui, qui ne proposait pas de nouveaux conteurs, mais des racontards et des balivernes tant qu'il en voulait. Hein. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un rat sourdingue. Le rat, tout court, changea de crèmerie éclectique et s'en alla avec des racontards et des bobards pour raconter des balivernes et des salades presque fraîches. L'histoire du raconteur ne dit toujours pas si le compteur du rat savait lire les chiffres du compteur confiné à rester content, mais ouvert. Voilà, vous voyez. Bon, bah, vous avez compris, hein. J'espère que je ne vais pas vous faire un dessin. Hein. Bon. Et alors moi, c'est pour ça que chez nous, on a mis des panneaux solaires, pour plus avoir affaire au raconteur éclectique. Voilà. Hein. Et depuis, ben, le raconteur éclectique ne vient plus à la maison. Bah oui, quand même, pas exagéré, quoi. Alors tiens, les Blues Brothers. Alors eux aussi, c'est quelque chose. Ils avaient fait un film qui était superbe. Alors, c'est deux frangins. Bah oui, Brothers. Hein. Brothers, ça veut bien dire ce que c'est. Hein. Ça, c'est du bon, hein. Alors, si un jour vous avez l'occasion de voir que le film passe à la télé ou ailleurs, hein, les Blues Brothers, tout simplement, allez-y, allez-y. Il y a Red Charles qui chante dedans. Il y a James Brown, naturellement, vous voyez, c'est tout. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'ils font un gala pour ramasser suffisamment d'argent pour sauver un orphelinat tenu par des bonnes sœurs, pour des enfants, vous voyez. Et naturellement, ils réussissent. Hein. Alors, il y a toute une pléiade de chanteurs connus là-bas, hein, qui correspondent à l'époque où le film a été fait, bien sûr. Et vous avez un Red Charles, un James Brown, mais il y a d'autres artistes dont je ne me souviens plus des noms qui sont très très bons. Hein. Ça vaut le coup. Vous pouvez le louer aussi. Hein, maintenant, ça fait longtemps qu'on peut louer des vidéos. Moi, j'aimerais bien le revoir, d'ailleurs, vous voyez. Alors, en attendant de le revoir, et de le revoir, et de le revoir, j'ai un bouquin qui s'appelle Humanitas, enfin, un livre de poésie, écrit par Julien Alexandre, et le poème s'appelle Les Damés. Qu'on les monte du doigt, qu'on les traite de chiens, de bouffeurs de bourgeois ou de salvoriens, ils recherchent leurs âmes, leurs étoiles déchues, dans le ventre des femmes de petites vertus. Ils crèvent en silence, à l'ombre des lumières, en se crevant la panse à grands coups de prière. Qu'on les monte du doigt, qu'on les traite de chiens, de bouffeurs de bourgeois ou de salvoriens. Ils boivent la misère, ils têtent l'infortune, dans le sein de leur mère, dès leur première lune. Ils pissent sur le mur de votre insolence, intolérance par contre. Blasés de pourriture, ils n'ont plus d'espérance. Qu'on les monte du doigt, qu'on les traite de chiens, de bouffeurs de bourgeois ou de salvoriens. À leur dernier printemps, ils maudissent la vie de leurs enfants qui creveront aussi. Le ciel est sans étoiles, quand le ciel est sans sou, quand la nuit tend son voile, tout espoir se dissout. Qu'on les montre du doigt, qu'on le traite de chien, de bouchard de bourgeois ou de salvorien. Voilà. Attendez, je regarde s'il y a une suite. Non, il n'y a pas de suite, heureusement, parce qu'il en a, il en a dit, hein, il aura vachement. Hein, bon. Alors, on va faire du Charles Baudelaire, figurez-vous. Bon, tout le monde connaît Charles Baudelaire, tout le monde l'a appris à l'école. Hein. Même toi, Jaco, je pense que tu as dû lire du Charles Baudelaire, ou tu as dû en entendre. Hein. Non ? Eh bien, écoute bien, lorsque ce... Hein, le joujou du pauvre, décidément, on ne parle que de pauvre, hein, là, dans cette émission. Et alors, je veux donner l'idée d'un divertissement innocent. Il y a si peu d'amusement qui ne me soit pas coupable. Quand vous sortirez le matin avec l'intention décidée de flâner sur les grandes routes, remplissez vos poches de petites inventions à un sol. Ça doit être une modèle de l'époque, ça. Tel que le polichinelle plat mu sur son seul fil, les forgerons qui battent l'enclume, le cavalier et son cheval, dont la queue est un sifflet, et le long des cabarets au pied des arbres, faites-en hommage aux enfants inconnus et pauvres que vous rencontrerez. Vous verrez leurs yeux s'agrandir démesurément. D'abord, ils n'oseront pas prendre, ils douteront de leur bonheur, puis leurs mains agripperont vivement le cadeau et s'enfuiront comme font les chats qui vont manger loin de vous le morceau que vous leur avez donné, ayant appris à se délier de l'homme, défier de l'homme, pardon. Sur une route, derrière la grille d'un vaste jardin, au bout duquel apparaissait la blancheur d'un joli château frappé par le soleil, se tenait un enfant beau et frais, habillé de ses vêtements de campagne, si plein de coquetterie. Le luxe, l'insouciance et le spectacle habituel de la richesse rendent ces enfants-là si jolis qu'on les croirait faits d'une autre pâte que les enfants de la médiocrité ou de la pauvreté. À côté de lui, gisait sur l'herbe un joujou splendide, aussi frais que son maître, verni, doré, vêtu d'une robe pourpre et couvert de plumets et de verroteries. Mais l'enfant ne s'occupait pas de son joujou préféré, et voici ce qu'il regardait. De l'autre côté de la grille, sur la route, entre les chardons et les orties, il y avait un autre enfant, sale, chétif, fuligineux, un de ces marmots parias dont un œil impartial découvrait la beauté, si, comme l'œil de connaisseur devine une peinture idéale sous un vernis de carrossier. Il le nettoyait de sa répugnance patine de la misère. À travers ces barreaux symboliques séparant les deux mondes, la grande route et le château, l'enfant pauvre montrait à l'enfant riche son propre joujou, que celui-ci examina avidement comme un objet rare et inconnu. Or, ce joujou, que le petit souillon agaçait, agitait et secouait dans une boîte grillée, c'était un rat vivant. Les parents, par économie sans doute, avaient tiré le joujou de la vie d'elle-même. Et les deux enfants se riaient l'un à l'autre, fraternellement, avec des dents d'une égale blancheur. C'est pas beau, ça. Vous voyez, les enfants, ils en ont rien à foutre d'être riches ou pauvres. Hein ? S'ils peuvent jouer avec un rat vivant dans une cage. Alors, mesdames, messieurs, vous voyez ce qu'il faut faire à vos enfants ? Capturez un rat, mettez-le dans une cage, et ça sera un beau jouet pour vos enfants. Voilà. Hein ? Par contre, il faudra le nourrir, le rat. Hein ? Bon, voilà. Il avait le sacré poème, hein, le Baudelaire, quand même. Hein. Alors, tiens, on va se payer Nina Hagen. Il n'y a pas de titre, mais elle ne mérite pas de titre. Elle, c'est tellement bon qu'il n'y a pas besoin de titre. Ça déménage en Allemagne, hein ? Oui, parce qu'elle est allemande, hein ? Vous avez reconnu l'accent teuton, oui. Alors, elle est complètement folle, celle-là. Nina Hagen, incroyable. Je vous en ferai écouter encore. Même si on ne comprend pas, c'est le rythme qui est intéressant. C'est la mélodie, enfin la mélodie, pas le texte, mais le son, voilà. Ouais. Alors, là, j'ai un petit livre de Jean-Pierre Henriot. Le titre s'appelle « La larme de cire ». Mais le poème s'appelle « Un grain sans mêle ». Oh là là, quelle drôle de vie qui s'en mêle là. Un jour rit, l'autre chante, et le lendemain, déprime. Un jour à vélo, l'autre à cheval, à moto. Et un lendemain, comme si c'était hier. En automobile, immobile, derrière le volet, en panne d'affection, en manque d'impression. Hier amoureux, demain solitaire, solitaire de vers et de rimes. Un jour près de l'abîme, du précipice, l'autre de joie et d'amour, d'amitié, à tout va. Et à s'en ramasser des gamelles, à s'en faire voler sa paire d'ailes, plus un souffle de vent derrière pour avancer, prendre le large, estime bafouée. Réalité bien trop artificielle et subjective. Sur ce fil, cette ficelle, j'en craque mon lacet d'amertume. Je fais donc un nœud à mon mouchoir encore humide et je m'en vais voir ailleurs, d'autres amis, d'autres étoiles. J'enlève l'encre. Je prends vite l'eau à la bouche. Et il y a quelque chose qui déconne. Ça déraisonne. T'as raison, bien raison, de penser, de douter. Continue, insiste. Tu trouveras un sens à tant d'aventures cathodiques. Non, chaotiques, pardon. Ben oui, cathodique, c'est pas pareil. Hein, ça, c'est là, nous, on est cathodiques, là, en ce moment. Hein, bon. Alors, chaotique sur cette lune. De notre chaloupe, tu iras d'île en île, et un jour, le matin de notre mort, tu migreras enfin sur une terre d'asile, en un feu éternel, en un feu éternel. Et un feu éternel qui naîtra de ton sourire. Heureux d'avoir vécu seul, seul, oui, bien seul. Ouh là là, quelle drôle de vie, quelle drôle d'envie qui s'en mêle là. Un jour vagabond, l'autre jour berger, un jour mouton, l'autre barbelé, un jour s'installer pour de bon, l'autre ne jamais dessouler. Ouh là là, un jour en chaussons, l'autre en souliers troués, un jour épuisé, las, un jour une tache d'encre, de chine noire, une goutte, une larme seule, l'autre, un grain de beauté. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant ce monsieur. Voilà. C'est intéressant, hein. Et puis, je peux vous dire aussi qu'on est à même pas 2 minutes de la fin. Vous vous rendez compte, hein? Qu'est-ce que je pourrais vous dire en 2 minutes, hein? Oh, c'est un peu long, ça. Non, le gardien, ça. Le gardien des morts de... pas encore intéressé un peu. Tiens, allez. Un certain avenir. Voilà, ça va aller vite, vous allez voir. Je vais vous le lire. Un certain avenir. J'avais attrapé ce balai par ses sentiments, en nettoyant devant la porte de ma conscience, en jetant à la poubelle 10 000 remords éculés par le temps. Le marchand d'avenir, incertain, vantait son alchimie tellement il était sûr de m'en vendre une tranche épaisse que ce sera difficile à porter. Oh, je n'étais pas certain de faire un bon choix malgré l'avis d'une femme qui vagabondait depuis plusieurs années dans mon univers. Elle hantait mes rêves depuis si longtemps, déjà que mes envies d'elle se transformaient en tortue migratrice prête pour le départ. L'avenir, dont j'étais certain, avait déjà visité mes nuits en se révélant au petit matin. L'aube charriait dans mon âme des brumes qui veillaient sur mon sommeil. Mon réveil se débattait avec une tempête d'idées fixées à des comètes impudiques. Un matin, je tenterai de rester dans un rêve qui parle d'éternité et choisirai de ne plus consulter le mar du Café-Lait. C'était le 27 avril 2002 à 6h15. Et là-dessus, je vais vous dire bientôt au revoir parce qu'il reste 30 secondes. Ouais. Alors, Jaco, j'arrive dans 30 secondes. Hein. À bientôt. Tu me fais des frites de Marrakech. Hein. D'accord.